L'AS Magenta n'a pas franchi le mur. Septième tour de la Coupe de France. Cet après-midi au stade du Medellin, les hommes de Pierre Wadjoka se sont inclinés 3-0 devant le FC Mulhouse. Naïma Moucho a quitté la Nouvelle-Calédonie avant de s'envoler pour Paris. La ministre a publié un communiqué dans lequel elle indique que les partenaires favorables à l'accord de Bougival se sont accordés sur certains points. À la fin d'une belle expérience pour les jeunes en situation de handicap, ils viennent de passer un peu plus de 24 heures à l'Ilieu Signal grâce à l'association La Table Ronde Française de Nouméa. La grande exposition du Fabriqué en France, organisée à l'Elysée, une initiative lancée il y a 5 ans par Emmanuel Macron. Objectif, relancer le Made in France contre l'invasion des produits chinois. Regain de tension entre la Chine et les États-Unis. La vente d'armes à Taïwan par l'administration Trump a provoqué la colère de Pékin, qui revendique toujours la souveraineté de l'île. Et puis le rugby à la suite des test matchs internationaux. Après une défaite la semaine dernière face à l'Afrique du Sud, l'équipe de France affrontera demain matin à 7h10 les Fidji. Bonsoir, excellent week-end et soyez les bienvenus dans ce journal à la une, l'actualité sportive avec du football. Et pas de nouvel exploit cette année pour l'AS Magenta, le vainqueur de la Coupe de Calédonie, disputé aujourd'hui le 7e tour de la Coupe de France à domicile sur la pelouse du stade du Medellin. Mais les Nouméens ne sont pas parvenus à prendre le dessus sur les métropolitains du FC Mulhouse qui avaient fait le déplacement. Défaite de l'ASM, Mickaël Juneski sur le score de 3-0.
Un score qui paraît sévère étant donné le scénario du match. La meilleure ennemie de l'équipe de l'AS Magenta, c'était elle-même finalement dans cette rencontre. Une première mi-temps où, à armes égales, les joueurs de Magenta ont montré des signes d'énervement, de faiblesse physique, même une grande pression face à ce club de National 3. Et le tournant du match, ce carton rouge pour Cameron Wetrenges, le défenseur nouméen, dès la demi-heure de jeu pour un mauvais tacle. C'était déjà difficile à 11 contre 11, alors en infériorité numérique, la tâche s'annonçait encore plus compliquée. Malgré tout, Magenta a continué de tenir bon et même de se créer de rares mais franches occasions contre une formation de Mulhouse largement dominatrice dans le jeu. Germain Aïwégané était même à deux doigts d'ouvrir le score juste avant la mi-temps sur une belle percée dans la surface de réparation adverse au retour des vestiaires. Encore de belles actions côté ASM qui auraient pu changer la donne mais non concrétisées. Et à force de patience, Mulhouse obtient un pénalty incontestable à la 48e minute de jeu qui permet à Gleistin d'ouvrir le score. Une fois mené, Magenta a paru libéré important et a montré même un autre visage, toujours en infériorité numérique, mais face à un pensionnaire de N3, la moindre erreur est vite sanctionnée. Et le corner pour Mulhouse a vu son attaquant Amaouche doubler la mise à la 61e minute de jeu d'une belle tête poteau rentrant, imparable pour le gardien Michael Ulil qui a pourtant réalisé un très grand match dans les cages de Nouméa. Le dernier but de Mulhouse signé Diallo est anecdotique sur une contre-attaque dans les arrêts de jeu. La sentence était déjà tombée. Magenta s'incline et est éliminé, mais a défendu ses chances selon l'attaquant Germain Aïwégané.
Pour moi, on avait jusqu'à ce fameux carton rouge. Ça nous a un peu cassé moralement, mais voilà, moi je suis fier des joueurs parce qu'on a tenu une mi-temps à 10. Et voilà, on a donné ce qu'on a pu. Et puis voilà, la vérité, quand tu joues avec peu d'expérience en Coupe de France, et puis ben, on est une jeune équipe aussi. Et puis voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs expérimentés à part quelques-uns, à part les cadres, notre capitaine avec notre gardien de but qui a fait un gros match, notre gardien de but. Et puis ben on perd 3-0, mais voilà, on se laisse pas quand même abattre par ce score parce qu'on a eu quelques occasions franches. Moi j'ai eu une occasion. Et voilà, on est super content de notre jeu. Voilà. Il n'y a pas de regret parce qu'on s'est dit avec les garçons, on joue jusqu'au bout. Même si ceci, cela, mais voilà, c'est le match. Dans un match, tout peut arriver. On prend ce qu'il y a à prendre, on joue, et puis voilà. 3-0, mais pas de regret.
Et la différence de niveau était surtout flagrante dans l'expérience du jeu. Le capitaine de Mulhouse, Cassé Mamange, a félicité ses malheureux adversaires du jour.
On a été agréablement surpris. C'est quand même une équipe qui a beaucoup de combativité. Ils sont agressifs dans les duels. Ils ne se sont pas arrêtés tout le match. Donc ça n'a pas été un match facile. On s'est rendu facile en marquant rapidement en deuxième mi-temps. Mais on reste quand même très très agréablement surpris par cette équipe qui nous a quand même causé pas mal de mal.
Une défaite, mais de l'expérience qui est une nouvelle fois engrangée pour le football calédonien. C'est ce que retient le président de la fédération, Gilles Tabergeux.
Très belle deuxième mi-temps à 10. Mais bon, c'est vrai que le carton rouge de la première mi-temps plombe le match. Et c'est vrai qu'après, ils se sont un peu libérés. Mais bon, c'est de bon augure pour les prochaines rencontres de Magenta. Mais c'est une équipe en devenir. J'ai vu qu'il y a pas mal de jeunes. Et ouais, ils ont eu un très bon gardien aujourd'hui. Très bon.
3 à 0 donc après ce duel contre un adversaire relevé pour les vainqueurs de la Coupe de Calédonie et surtout l'impression qu'il y a encore de l'apprentissage à réaliser pour cette très jeune équipe de Magenta si elle veut rééditer l'exploit de 2010 et passer à nouveau le 7e tour de la Coupe de France.
Naïma Moucho a quitté la Nouvelle-Calédonie il y a quelques heures au terme de 5 jours de visite sur le territoire. 5 jours lors desquels la ministre des Outre-mer s'est rendue dans les 3 provinces, a effectué de très nombreuses visites de terrain à la rencontre des Calédoniens et a eu des rendez-vous politiques avant de quitter la Nouvelle-Calédonie. La ministre a publié un bref communiqué, c'était hier soir. Elle y indique que les partenaires favorables à l'accord de Bougival, c'est-à-dire l'ensemble des partis à l'exception du nouveau FLNKS, se sont accordés sur plusieurs points, à savoir le soutien de l'accord de Bougival, la tenue d'une consultation citoyenne anticipée, l'engagement à poursuivre les discussions relatives à la mise en œuvre de cet accord et notamment à apporter les éclaircissements nécessaires et le lancement d'un plan de relance à la hauteur des défis de la Nouvelle-Calédonie. Une dernière journée de la visite de la ministre des Outre-mer qui aura également été marquée par l'annonce officielle par le Palika qu'il quittait le FLNKS. Ce week-end, c'est une autre composante du front qui tient son congrès. Les délégués et militants de l'UPM sont réunis jusqu'à demain à la tribu de Goyeta à Ponérioin. L'UPM qui pourrait à son tour quitter les instances du FLNKS.
17h51 sera du rythme bleu.
L'actualité festive et le vide-grenier du Rotary Club à l'hippodrome Henri Millard qui se déroulait ce matin. Rendez-vous qui a attiré de très nombreuses personnes alors que cette opération servira à soutenir les associations Ambiance.
Un vide-grenier que je fais assez régulièrement parce qu'il est assez prisé. En termes d'organisation, c'est super, c'est parfait. Et c'est un petit vide-grenier, donc assez familial, assez convivial et donc ça nous plaît bien.
Je m'amuse, je m'ennuie des fois, je râle, ça rapporte de l'argent et puis voilà.
Toi aussi, tu as vendu des affaires aujourd'hui ?
Oui, ça me fait plaisir.
On cherche des avis pour lui ou même des jouets. Voilà, il a 9 mois et demi, donc on est très content.
Vraiment, ça fait plaisir. Et puis, le bébé grandit tellement vite, donc c'est bonne occasion pour... voilà.
Le bébé grandit très vite, donc on a beaucoup, beaucoup de choses et il faut faire de la place pour pouvoir acheter d'autres choses. L'avantage de venir ici, c'est que on peut faire des petits prix et les gens, ça leur plaît, donc on est gagnant aussi sur ça.
Un événement qui se déroulait toute la matinée à l'hippodrome Henri Millard. Cette année, l'argent sera reversé pour aider l'association Valentin Aoui qui accompagne les malvoyants et non-voyants. Ils étaient 12 enfants de 6 à 13 ans à avoir embarqué à bord d'un catamaran. Il s'agit de la 12e édition d'une action caritative baptisée Les Voiles du Caillou 2025, organisée par l'association La Table Ronde Française Nouméa. Des enfants qui sont en longue maladie ou en rémission et dont le quotidien n'est pas toujours facile. C'est pourquoi l'association de la Table Ronde de Nouméa tient à leur offrir une parenthèse dorée. Des jeunes qui ont vécu une bien belle expérience à l'île au Signal.
Je m'appelle Aurélien Roby, c'était bien. On a baigné, on a dormi là sur le catamaran. C'était bien, parce qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas parti en catamaran. C'était la première fois, puis c'est une première pour nous. Sortir de l'hôpital, de tout, je suis contente de ce voyage.
Henrik, on a fait une chasse au trésor, c'est amusé.
Oumouni, il est parti à l'île au Signal, c'est pour balader.
Clark, aujourd'hui on vient d'aller à l'île au Signal. Là-bas on a fait des petites activités, on a fait une chasse au trésor, on a baigné là-bas, on a caressé des tortues. C'est trop bien.
Les enfants étaient à bord de 3 catamarans encadrés par les bénévoles de l'association Table Ronde Française Nouméa, présidée par Ladislas Lodou.
Je pense qu'on a réussi notre coup. Tous les enfants sont enjoués, souriants, sûrement très fatigués de toutes les activités qui ont pu leur être proposées au cours de ces 2 jours. Alors déjà, pour la plupart d'entre eux, c'était la première fois sur un catamaran. Donc il y a eu cette traversée jusqu'à l'île au Signal. Après, sur place, on avait des activités, kayak, baignade. On leur a organisé également une chasse au trésor, qui a été un moment fort à partager avec tous les tableurs et le personnel médical qui était venu avec nous. Et ben, c'est des enfants qui sont tous très courageux parce que soit en cours de soins, soit en rémission de longues maladies. Comme j'avais pu l'expliquer au départ de l'aventure, l'idée c'était vraiment de leur offrir une parenthèse dans ce quotidien qui n'est pas souvent très sympa.
Des propos recueillis sur les pontons de Port-Moselle cet après-midi par Kalinda Boicou. On va rester en mer encore quelques instants. Depuis quelques jours, on parle beaucoup du 160e anniversaire du phare Amédée. Son inauguration officielle s'est déroulée il y a 160 ans, jour pour jour. C'était le 15 novembre 1865. À l'occasion de cet anniversaire vient de sortir La légende du phare Amédée, un roman publié chez O Édition Pacifique Sud par l'ancien journaliste Benoît Quatsodo, qui a travaillé pendant 15 ans à Nouméa, à la station du Mont Coffin. Le roman raconte la construction du phare Amédée et son inauguration en 1865. Pour l'auteur, ce phare, mais aussi le bagne ouvert en 1864, sont deux symboles forts, deux témoins de cette Nouvelle-Calédonie de la fin du Second Empire. Benoît Sodo, au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
En plus des épisodes très sombres de la colonisation que chacun reconnaît aujourd'hui, et c'est une bonne chose, les deux derniers témoins bien visibles de ce 19e siècle, les symboles des ombres et des lumières finalement, eh bien ce sont les murs du bagne et le phare Amédée. Ces murs qu'on entretient, qu'on visite, qu'on fait vivre aujourd'hui, non pas comme des vestiges, mais de véritables pans de mémoire. Le phare Amédée finalement, c'est lui aussi un témoin. Alors j'ai la passion de son histoire, mais j'ai surtout la passion de ce qu'il a représenté comme aventure collective à la dimension tout un pays. Toutes les communautés ont très concrètement participé à sa construction. Les hydrographes, les géomètres, les ingénieurs européens, mais aussi et surtout les bagnards, les Mélanésiens, et ça le gouverneur Guillain le souhaitait, et puis les militaires de l'infanterie qui étaient alors présents en Nouvelle-Calédonie. Et moi je me demande, 160 ans après, et si l'îlot Amédée finalement était le symbole de cette société universelle dont rêvait Saint-Simon, qui était l'inspirateur de l'empereur Napoléon III et de son disciple, le gouverneur Guillain. Je le regrette un peu, on a beau écrire des romans, on ne peut pas refaire l'histoire, mais on peut rêver.
Le phare Amédée est une fiction historique avec des personnages bien réels comme l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, et d'autres inventés comme Émile Lescaut, un jeune maréchal ferrant condamné au bagne pour vol de chevaux, mais qui lui aussi aurait très bien pu exister.
Qu'y a-t-il de plus éloigné, de plus différent qu'un maréchal ferrant et une impératrice? Et quand en plus ce sont les héros d'un roman, leur rencontre devient un petit peu l'histoire dans l'histoire, la petite histoire, celle d'un modeste artisan des faubourgs parisiens devenu bagnard, et puis la grande histoire, celle d'une impératrice mal aimée et confinée, cloîtrée dans ses appartements et qui rêvait de s'occuper des affaires du monde et qui devient un petit peu la passionnaria, la porte-parole de la Nouvelle-Calédonie. Alors, qu'il soit la victime ou bien l'héroïne de l'histoire, l'un et l'autre, Émile et l'impératrice, à leur façon, eh bien, ils témoignent de l'Empire. Ce qui les sépare, c'est leurs conditions, naturellement. Et puis, ce qui les réunit, comme dans un condensé d'histoire, eh bien, c'est l'admiration, le regard qu'ils se portent mutuellement. Ils ne se jugent pas et ils se respectent. Et s'ils se retrouvent pour finir autour d'un phare, point haut sur l'horizon, c'est une happy end de roman, c'est vrai, mais c'est surtout comme un cadeau mutuel qu'ils feraient à leur histoire commune et donc à notre histoire à nous.
L'un des ressorts de cette fiction historique est la rencontre improbable en plein Paris entre l'impératrice Eugénie et le jeune Émile Lescaut. À la suite d'un quiproquo, les deux héros découvrent qu'ils partagent le même amour des chevaux. Benoît Sodo a eu la prudence de soumettre son manuscrit à Valérie Vatier, la directrice du musée maritime de Nouvelle-Calédonie. Examen de passage réussi, Valérie Vatier a accepté de lui préfacer son roman, même si de temps en temps l'auteur prend quelques libertés avec la réalité historique.
Réalité et fiction, parce que elle, Valérie, est dans la réalité et moi dans la fiction. La rencontre entre le bagnard Émile Lescaut, qui allait partir donc quelques mois après dans le premier convoi d'Iphigénie, et puis l'impératrice Eugénie, cette rencontre s'est faite à Paris, devant l'atelier où allait naître le phare Amédée deux ans après. Ce face-à-face, c'est le face-à-face de deux destins que tout oppose, bien réel, et puis un autre totalement imaginaire, mais dont le modèle, donc le modèle du bagnard, s'est multiplié par milliers. Autrement dit, c'est pas complètement une fiction non plus. Ce carambolage entre le vrai et le faux, entre la réalité et la fiction, replacé dans la trame chronologique du Second Empire, c'est finalement le résumé un peu rêvé, fantasmé, de la chronique calédonienne telle qu'on aurait voulu qu'elle s'écrive. C'est la trame d'un roman historique, c'est donc le contraire d'un livre d'histoire, mais je n'ai quand même pas eu le sentiment d'avoir complètement commis un mensonge. J'ai retenu l'idée d'une vérité alternative. Et souvenez-vous, c'est Anatole France qu'on enseigne plus trop dans les écoles qui disait que sans le mensonge, la vérité mourrait d'ennui.
La légende du phare Amédée, un roman publié chez O Éditions Pacifique Sud et écrit par Benoît Sodo. Il est 18h sur Radio Rythme Bleu, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Savez-vous qu'il faut nettoyer régulièrement les filtres et effectuer au moins une fois par an l'entretien de votre climatiseur, fermer les fenêtres et portes dans une pièce climatisée pour se prémunir de la surconsommation de l'énergie?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprises, cabinets juridiques, collectivités, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslégales@. RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Il est 18h sur Radio Rythme Bleu, tout de suite la suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Et l'actualité en métropole, un homme menaçant armé d'un couteau a été blessé par les tirs de policiers qui tentaient de l'interpeller. Des faits qui se sont produits à l'arrivée d'un train à la gare Montparnasse. L'homme blessé, originaire de Wallis et Futuna, était activement recherché depuis plusieurs jours. Fabien Boget est le représentant du syndicat Alliance Police à Paris.
L'individu était à bord du train Rennes-Paris et lors de son arrivée en gare Montparnasse, le dispositif policier mis en place a permis de rapidement le repérer et au moment de son interpellation, l'individu a tenté de prendre la fuite, se retrouvant coincé, il a sorti un couteau. Un coup de feu au minimum aurait été tiré, ce qui l'aurait touché au niveau des membres inférieurs et ce qui aurait permis sa neutralisation rapide.
Les deux enquêtes ont été ouvertes, l'une par le parquet de Paris pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, la seconde par la police des polices, l'IGPN. En bref, moins d'un mois après le casse spectaculaire du Louvre, trois hommes ont tenté de cambrioler le château de Fontainebleau. Deux d'entre eux ont été interpellés. Le troisième a réussi à prendre la fuite. La grande exposition du fabriqué en France organisée à l'Élysée. C'est la 5e édition de cette initiative lancée par le président de la République dans le but de relancer le Made in France contre l'invasion des produits chinois. Emmanuel Macron qui s'est exprimé tôt ce matin pour nous lors de l'inauguration de cette exposition.
C'est cette surproduction chinoise qui s'est accélérée à la sortie du Covid, ajoutée aux tarifs américains qui fait que beaucoup de produits venant par exemple d'Asie du Sud-Est qui allaient vers le marché américain sont redirigés vers l'Europe. Et donc il faut qu'on assume une politique de protection de notre industrie. Et c'est pas un gros mot. Et là aussi, c'est un en même temps qu'il faut assumer. Il faut tout à la fois une politique de compétitivité qui passe par simplification, amélioration du coût du travail et du coût du capital, innovation, et une politique de protection si on ne veut pas se laisser déborder.
123 produits au total sont présentés pour cette exposition. Le chef de l'État veut faire de ces produits le symbole de la réindustrialisation française. Emmanuel Macron qui a profité de cette inauguration pour défendre son bilan.
Je pense que ce qu'on a fait depuis 8 ans fonctionne. On a augmenté l'attractivité, on a baissé le chômage, on a une des plus fortes croissances d'Europe, les chiffres de ce trimestre le montrent encore, la moitié de la croissance de la zone euro c'est la France. On a augmenté le taux d'activité, baissé le chômage des jeunes, etc., etc. Donc les résultats sont là. On a endigué, stoppé 12 ans de désindustrialisation. Et on commence à remonter.
Emmanuel Macron à l'Élysée pour l'inauguration de l'exposition du fabriqué en France. L'actualité politique et l'Assemblée nationale au repos forcé ce week-end. La suite de l'examen du projet de loi de finances est reportée à lundi. Décision inacceptable pour la gauche. Certains députés accusent le gouvernement de chercher à raccourcir le temps des débats et donc d'empêcher le vote. L'ensemble du texte doit être remis au Sénat le 23 novembre à minuit au plus tard, ce qui laisse 7 jours seulement aux députés pour débattre de près de 2000 amendements qui ont été déposés. Assiste-t-on à un regain de tension entre la Chine et les États-Unis? Hier, Donald Trump a approuvé la première vente d'armes à Taïwan depuis son retour à la Maison-Blanche, ce qui a provoqué inévitablement la colère de Pékin. Il faut dire que la Chine revendique toujours une souveraineté sur l'île de Taïwan et menace d'utiliser la force pour récupérer Taïwan. Alors que les relations entre Xi Jinping semblaient s'être apaisées, cette vente d'équipements militaires sonne comme un nouveau coup de pression de la part de Donald Trump. Valérie Niquet est responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Dans une relation difficile avec Xi Jinping, on voit que Trump peut alterner le chaud et le froid. Le chaud étant, c'est mon meilleur camarade et on fait des affaires ensemble. Et le froid étant, si on n'arrive pas à s'entendre, eh bien, les États-Unis vont reprendre les ventes d'armes à Taïwan. Taïwan a besoin des armes américaines puisque aucun autre pays n'accepte de lui en vendre. Ça fait partie d'ailleurs d'un texte de loi aux États-Unis, fournir à Taïwan les capacités de se défendre face à la Chine, adopté par le Congrès dès 1960.
Valérie Niquet, la responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et puis quelques mots de l'actualité dans la région Pacifique avec le Premier ministre fidjien Sitiviri Rambuka qui était hier à Tokyo où il a pu rencontrer sa nouvelle homologue japonaise, correspondant signé Jean-Pierre Zajac.
Sitiviri Rambuka a d'emblée remercié le Japon pour son amitié de longue date et a félicité Sanae Takaishi pour la nomination historique qui a fait d'elle la première femme à gouverner l'Empire du Soleil Levant. Les deux dirigeants politiques ont aussi profité de leur rencontre pour réaffirmer leur engagement commun, je cite, « en faveur de la paix, de la stabilité, du développement dans le Pacifique et promouvoir ensemble un Indo-Pacifique libre et ouvert ». Ils ont également signé un communiqué conjoint qui ouvre la voie à une coopération renforcée dans de nombreux domaines. Ce partenariat, a estimé Sitiviri Rambuka, vise à consolider les liens étroits qui unissent nos deux pays et à bâtir ensemble un avenir prospère. Le Japon entend progresser main dans la main avec les îles Fidji, a déclaré quant à elle Sanae Takaishi. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h06, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, retour au sport et puis on parlera météo également.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Radio Rythme Bleu, 18h07, suite et fin de journal avec Lionel Sabot.
Et on va reparler sport. Je vous rappelle que nous avons parlé football au début de ce journal avec Mickaël Juneski. Il n'y a pas eu de nouvel exploit pour l'AS Magenta. Le vainqueur de la Coupe de Calédonie disputait cet après-midi le 7e tour de la Coupe de France au stade du Madélé. Les Nouméens ne sont pas parvenus à prendre le dessus sur les métropolitains du FC Mulhouse qui évolue en National 3. C'est l'équivalent de la 5e division. L'AS Magenta, qui s'est incliné sur le score de 3-0. D'autres résultats en Calédonie avec la Méga Rondo 2025, épreuve de VTT qui était disputée ce matin à Bouraille sur le domaine de Deva. La victoire est revenue à David Esposito. Il a devancé Olivier Bertolon et Chris Jenner. La meilleure féminine, Caroline Favier, a fini à la 15e place. Plus de 700 participants étaient au rendez-vous de cette Méga Rondo. Du cricket également ce week-end avec la Coupe de Calédonie. Ça se passe au stade de Ndu. Les demi-finales hommes et dames se sont déroulées ce matin. Chez les messieurs, Berouma s'est imposé en deux tapés et arrêt des arbitres 93-92. Dans le deuxième match, victoire de l'Aiska qui s'est imposé sur Kiwini en deux tapés 92-89. Et puis chez les dames, JSO s'est imposé sur Kone en deux tapés 144-52. Et Wedjumel s'est imposé face à Kounier en deux tapés par arrêt des arbitres 99-98. Les finales auront lieu demain demain matin, toujours au stade de Hendu. Chez les messieurs, Berumas sera opposé à l'ASK. Et chez les dames, la JSO rencontrera donc Wilrumel. Le sport en métropole et dans le monde avec du rugby. Ce nouveau week-end de test match. Le 15 de France fera face aux Fidjiens. Ce sera demain matin, une semaine après la défaite contre les doubles champions du monde en titre, les Springboks, 32 à 17. Les Bleus vont devoir se remobiliser face aux Fidjiens. Pour cette rencontre, Fabien Galthié a procédé à quelques changements au sein de son effectif. Grégory Aldrit, qui était en tribune la semaine dernière face aux Sud-Africains, sera cette fois-ci titulaire. Il portera même le brassard de capitaine.
Après une défaite, voilà, c'est jamais facile. On est un groupe de compétiteurs, un groupe qui veut gagner tous les matchs. Bien sûr qu'on était, touchés d'avoir perdu ce match face à notre public, dans notre stade de France. Pas abattu parce qu'on est conscient qu'on aurait pu faire bien mieux, qu'on aurait pu gagner le match. Voilà, on est vite retourné au travail pour préparer ce match des Fidji qui s'annonce costaud aussi.
La France-Fidji, match à suivre demain matin pour nous. Coup d'envoi de la rencontre à 7h10, heure de Nouméa. D'autres affiches seront à suivre. L'Irlande qui fera face à l'Australie, le Pays de Galles qui rencontrera le Japon, l'Italie sera opposée à l'Afrique du Sud et l'Angleterre retrouvera les Blacks. Et puis lundi matin, l'Écosse fera face aux Pumas argentins. Du football avec la suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, au lendemain de la large victoire de l'équipe de France sur l'Ukraine, 4-0 qui a permis aux Bleus de s'assurer leur qualification. Aujourd'hui, l'Allemagne a dominé le Luxembourg, 2-0. La Nationalmannschaft qui est en tête de son groupe et qui tentera de valider définitivement mardi son billet pour la Coupe du Monde. Ce sera face à la Slovaquie. Notez que dans la poule G, il n'y a pas eu de vainqueur entre les Pays-Bas et la Pologne. Les Pays-Bas sont à seulement un petit point de se qualifier. Le prochain rendez-vous des Bleus, ce sera lundi, déplacement de l'équipe de France en Azerbaïdjan. Quelques mots de tennis avec la suite et bientôt la fin du Masters de Turin. On connaît les affiche des demi-finales qui se joueront cette nuit pour nous. Yannick Sinner, le numéro 1 mondial qui est sorti de son groupe invaincu, affrontera l'Australien Alex de Minaur. L'autre demi-finale verra une confrontation entre l'Espagnol Carlos Alcaraz, deuxième au classement ATP, et le Canadien Félix Auger-Aliassime. Et puis du côté des sports mécaniques, place ce week-end au Grand Prix de la Communauté de Valence en MotoGP. C'est le dernier rendez-vous de la saison. L'Espagnol Pedro Acosta a signé le meilleur temps des essais libres. Il a devancé l'Italien Marco Bezzecchi et Franco Morbidelli. Chez les Français, Fabio Quartararo s'est classé 10e. Johan Zarco a fini avec le 15e temps, synonyme de passage au repêchage lors des qualifications. Séance de qualif qui sera à suivre ce soir, tout comme la Sprint Race. Le Grand Prix sera à suivre demain à partir de minuit, heure de Nouméa. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Elle fait la pluie et le beau temps, c'est Jennifer.
Merci Lionel. Bonsoir à toutes et à tous. Cette nuit, après dissipation des nuages formés sur le relief en journée, le ciel deviendra progressivement peu à passagèrement nuageux. Le temps sera généralement sec, même si de rares averses persisteront sur le nord-est en début de nuit. Le vent d'est à sud-est dépassera localement les 10 nœuds sur l'est et les Loyautés. Il se rapproche de 15 nœuds sur l'extrême nord. Sur l'ouest, il faiblira ce vent et deviendra variable faible en fin de nuit. Sur l'extrême sud, il soufflera 5 à 10 nœuds de secteur est. Au sud, les températures minimales seront encore relativement fraîches pour la saison, avec 16 à 20 degrés près du littoral et jusqu'à 13 degrés dans l'intérieur. C'est l'hiver, ça y est. Au nord, elles se maintiendront souvent entre 20 et 24 degrés. Demain matin, des bandes de nuages accompagnées d'averses faibles aborderont l'île des Pins en matinée, alors que le soleil dominera sur les autres régions. Le vent d'est à sud-est oscillera entre 10 et 15 nœuds. Et un petit aperçu pour demain après-midi, quelques nuages qui circuleront sur la pointe sud, l'île des Pins et le sud des Loyautés, provoquant des averses isolées. Sur le relief, de courtes averses se produiront en fin d'après-midi. Ailleurs, la journée sera généralement bien ensoleillée. Le vent de secteur est se maintiendra entre 10 et 15 nœuds en général, se renforcera localement entre 15 et 20 nœuds sur l'ouest l'après-midi, voire même autour de 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds sur le sud-ouest. Les températures de l'après-midi seront stables, localement légère augmentation sur l'ouest. Elles s'échelonneront entre 27 et 31 degrés. Très difficile ce mot échelonné.
Si vous le dites.
En fin de journée, comme ça, c'est...
Ouais, bon.
Au futur.
Voilà. Et vous nous dites que c'est l'hiver à 31 degrés.
Mais non, bon, les minimales, 13 degrés.
Oh là là,
vous m'écoutez, moi j'écoute non, tout votre journal, Lionel.
Il est fini. Donc, voilà.
On se retrouve à 19h.
Oui, on va se retrouver à 19h. À tout à l'heure.
Merci, à tout à l'heure.
Mais je vous en prie.